des hommes, des femmes vous parlent sur Canal Académie.
Parcours. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Parcours avec ses découvertes, ses expériences, ses échecs et ses richesses.
On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour. C'est de la relation que l'écrivain Stendhal, Henri Bell, de son vrai nom et qui n'était pas académicien, mais tant pis, c'est un grand auteur français tout de même, entretenait avec l'Italie que nous allons parler dans cette émission en compagnie de Giovanni Dottoli, professeur de langue et de littérature française à l'université de Bari. Bari, c'est dans le sud de l'Italie, qui a consacré un livre aux voyageurs français en Italie intitulé « Le jardin d'Italie » paru aux éditions Honoré Champion en 2008. Bonjour Giovanni Dottoli.
Bonjour Madame Renard et bonjour à tous les auditeurs.
Alors les voyageurs français en Italie sont tellement nombreux qu'on ne peut pas les citer tous. On a quand même déjà fait une émission sur Paul Morand, une autre sur Jean Cocteau, une sur Chateaubriand. On en prévoit encore cette fois-ci. On a décidé de consacrer cette émission à Stendhal. Je crois que c'est incontournable Stendhal et l'Italie.
Absolument. Je partirai du fait que, avant de mourir, il a voulu dicter le texte de sa plaque mortuaire, et ce texte, c'est célèbre, c'est connu. Ici, J. Henri Bell di Stendhal, le Milanais.
Le Milanais, donc, Milanese.
Donc, il se considère voilà, comme un Milanese. Il a vécu, il a longtemps vécu à Milan, en se considérant vraiment Milanese, à l'époque où Milan n'était pas italien, c'était autrichien. Et il a été, au fond, tout cela n'est pas tout à fait connu, mais Stendhal a été une sorte de carbonaro, c'est-à-dire un patriote italien qui a participé, en cachette bien sûr, au mouvement politique pour la libération de l'Italie. Donc on peut l'insérer au-dedans des grands comme Garibaldi, Mazzini, Cavour et d'autres qui ont prôné la naissance de l'État italien.
Il faut dire qu'il est parti très jeune en Italie. Il avait 17 ans quand il part avec l'armée d'Italie, donc véritablement très jeune. Et puis finalement, l'armée, ça ne lui convient pas vraiment.
Absolument pas. Mais il parle toujours de l'armée dans ses romans et dans tous ses textes sur l'Italie.
Et à la chute de Napoléon en 1814, il part pour Milan, comme vous l'avez dit.
Absolument. Et il reste là, il presque reste jamais, là, et entre il est pris... Milan, Rome, Civitavecchia, Naples et Trieste. Ce
ah
sont
oui,
vraiment
voilà,
les
voilà,
grandes villes. Et Florence, ben, il a écrit ce célèbre livre « Rome, Naples et Florence ».
1817,
qui, voilà,
oui,
qui sont les trois grandes villes de l'époque et de nos jours, au point de vue voyage en Italie.
Et j'ai vu aussi qu'il avait écrit un livre sur la peinture italienne.
Voilà,
il était donc compétent
de la peinture
dans cette domaine aussi.
Et c'est le premier grand livre sur l'histoire de la peinture italienne. Mm-hmm. Et il est important de voir le titre. Histoire de la peinture d'Italie, donc pas de la peinture vénitienne ou romaine napolitaine. Donc il voyait,
déjà
même au point de
Italie,
vue, voilà,
oui, oui,
l'Italie comme un état culturel relié dans ses différences. Je dis bien différences parce que Stendhal est probablement le plus grand écrivain européen qui ait compris la force de la culture italienne qui consisterait, d'après lui, et il avait tout à fait raison, dans la pluralité des capitales italiennes, des histoires d'Italie, des civilisations italiennes. L'Italie est une sorte de concentré brodélien des différentes civilisations de la Méditerranée. Il a écrit quelque part, justement, dans Rome, Naples et Florence, que en Italie, toutes les 10 lieues, il y a une nouvelle langue, une nouvelle civilisation. Et c'est ça la force de ce pays. C'est-à-dire qu'à 15 kilomètres, on a une autre langue, un autre patois, et un autre art de vivre. Mais tous ces arts de vivre, reliés ensemble, font le miracle de l'Italie, bien aimée par le Milanais Stendhal, justement Henri Bell. J'arrive même à dire que sans l'Italie, Stendhal ne serait pas ce qu'il est. Toute son œuvre naît d'une documentation historique et réel qui vient d'Italie. C'est quelqu'un qui se documentait énormément au point de vue de l'histoire. Il a écrit des chroniques italiennes célèbres, des nouvelles concernant l'Italie, la Chartreuse de Parme, bien sûr, etc. Même les grands romans et les petites nouvelles de Stendhal ont toujours un fond, disons, une ambiance italienne, ou bien ce sont des histoires italiennes, ou bien ce sont des héros italiens, toujours entre le drame et l'amour, entre l'histoire et l'actualité.
Donc pas de Stendhal sans Italie. Mais alors, il y a aussi ce tempérament qui lui était particulier, je crois, dans ce pays qui l'enchante. Il aime l'Italie, il est pris d'amour pour l'Italie, mais il est quand même triste aussi, non?
Il est triste, c'est sa tristesse romantique guérir en Italie.
Ah bon, voilà.
Parce qu'il insiste sur le fait que l'Italie est le pays de l'énergie. Donc,
ah oui.
Le pays de la pensée énergique, disons, qui s'applique dans l'amour quotidien, d'où son livre de l'amour, qui est d'une actualité incroyable. Et de l'autre côté, une énergie flamboyante qui est placée sur l'histoire. Alors, par exemple, je lis quelques petits... extrait, il est à Rome via Condotti, c'est une célèbre rue qui, bien sûr, est là entre la place d'Espagne et le cours, il corso qui va de Piazza del Popolo jusqu'à l'hôtel de la patrie de nos jours. Et là, il écrit « De la table où j'écris, je vois les trois quarts de Rome ». Il y a toujours ces Stendhal, cette idée de posséder la totalité du réel. Et en face de moi, de l'autre côté de la ville, s'élève majestueusement la coupole Saint-Pierre. Le soir, lorsque le soleil se couche, je l'aperçois à travers les fenêtres de Saint-Pierre et une demi-heure après, ce dôme admirable se dessine sur cette teinte si pure d'un crépuscule orangé surmonté au haut du ciel de quelque étoile qui commence à paraître. Rien sur la terre ne peut être comparé à ceci. L'âme est attendrie et élevée, une félicité tranquille la pénètre tout entière. Je pense que ce petit passage vraiment résume l'attitude de Stendhal à l'égard de l'Italie. D'un côté, la beauté du soleil, du panorama, des coupoles, de la ville. De l'autre, l'âme, la sienne qui s'attendrit et l'âme des Italiens face à une sorte de félicité tranquille, dit-il, qui pénètre son âme et celle des Italiens dans une sorte de panthéisme qui remonte à l'origine du temps. Là, c'est le Stendhal qui... réfléchis, mais en même temps, je viens de le dire, il y a le grand Stendhal qui adore les femmes italiennes.
Oui, le plaisir de vivre. Oui,
combien
oui.
d'amour il a eu en Italie. Par exemple, il écrit dans Rome, Naples et Florence à propos des femmes. Les femmes jouent en Italie un tout autre rôle qu'en France. Elles ont pour société habituelle un ou deux hommes qu'elles ont choisis et qu'elles peuvent punir par le malheur le plus atroce s'ils viennent à leur déplaire. Dès l'âge de 15 ans, une jeune fille est jolie et peut compter dans le monde. Et il n'est pas très rare de voir une femme faire encore des conquêtes bien au-delà de 50 ans. Donc vraiment, c'est un éloge total de cette femme italienne qui est un peu le personnage de Stendhal. Stendhal, au fond... c'est un homme, bien sûr, mais là, il a un grand côté féminin. Et ce côté d'amour, de lien avec les autres, de tentative de conquérir l'autre. Et cette conquête se passe tous les jours. C'est une conquête qui ne finit jamais. On retrouve ce Stendhal qui aime la théâtralité et l'énergie des Italiens dans son lien avec la musique italienne.
Ah oui, il a écrit une vie de Rossini
voilà,
aussi.
Il a écrit
oui.
une vie de Rossini d'une actualité époustouflante. Je pense que Rossini doit beaucoup à Stendhal. Et il n'était pas facile de comprendre à l'époque le génie de Rossini, ce génie qui va de, disons, d'une musique lente à une musique montante qui devient une sorte de cavalcade infinie. Et là, Stendhal a écrit des pages d'une beauté sur cette créativité énergique, justement, de Rossini. Rossini est un peu Stendhal, encore une fois. C'est une femme musicale qui part du silence pour aller vers la conquête des étoiles. Et nous retrouvons Stendhal un soir à Naples. Nous sommes le 13 février 1817, donc 2 ans après la chute de Napoléon. Il est à Naples, les Bourbons sont retournés, le théâtre San Carlo a repris ses spectacles et il écrit, même, donc il participe au spectacle bien sûr, même impression de respect, de joie en entrant. Il n'y a rien en Europe, je ne dirais pas d'approchant, mais qui puisse même de loin donner une idée de ceci, de ce théâtre. Cette salle, reconstruite en 300 jours, parce qu'elle avait subi un incendie, est un coup d'État. Elle attache le peuple au roi plus que cette constitution donnée à la Sicile et que l'on voudrait voir à Naples, qui vaut bien la Sicile. Tout Naples est ivre de bonheur. Je suis si content de la salle que j'ai été charmé de la musique et des ballets. La salle est or et argent, et les loges sont en saillie. De là la magnificence. Ce sont des torches d'or groupées et entremêlées de grosses fleurs de lys. De temps en temps, cet ornement, qui est de la plus grande richesse, est coupé par des bas-reliefs d'argent. J'en ai compté, je crois, 36.
Donc, c'est magnifique, oui, on sent son enthousiasme.
Ce sens de l'or. Et on a déjà parlé une autre fois de l'or que verra Cocteau dans les rues de Naples. Cocteau parlera des gramophones d'or qu'il avait entrevus dans les maisons au rez-de-chaussée du vieux Naples. Donc cette ville de musique qui est musicale dans son grand théâtre qui, je le rappelle, est le plus grand théâtre d'Europe, comme vraiment aussi comme, disons, métrage et de nombre de spectateurs qu'il peut accueillir. C'est l'un des premiers grands théâtres d'Europe, non seulement le plus grand parce qu'il date du début du XVIIIe siècle. C'est le théâtre qui va commencer, va ouvrir la grandeur de cette ville au XIXe siècle qui était comme Londres et comme Paris. Mais à l'époque de Stendhal, 100 ans après, il y avait déjà une sorte de décadence qui, malheureusement, continue de nos jours. Donc Stendhal l'Italien, et je dis bien l'Italien, c'est l'écrivain qui a interprété l'âme italienne, qui s'est senti pleinement italien, qui a retrouvé en Italie ses désirs, ses idéaux, ses amours et ses réalisations.
Et son plaisir de vivre, sa quête du plaisir. C'est un épicurien tout de même.
Oui, des pâtes au vin, aux femmes justement. Et même le lien du peuple avec le pouvoir. C'est un lien différent à l'égard de la France. Parfois, c'est trop spirituel, trop religieux, mais il adore ce sens de musique populaire qui traverse toute l'Italie, à tel point que pour les pays, les régions italiennes qu'il n'a pas pu visiter, il en parle quand même comme s'il les avait visitées. Par exemple, il parle de ma région, les Pouilles, mais il n'est jamais venu dans les Pouilles, mais il le fait en disant j'ai été là, j'ai rencontré. C'était pas vrai. Il fait un autre voyage idéal dans les Calabres. Il écrit un voyage au Calabre, mais il n'a jamais été là-bas. Et ce qui est étonnant, c'est que ce voyage apparaît comme un voyage réel. Donc il voyage entre la réalité et l'idéal.
Merci Giovanni Dottoli. Avec vous, on rêve de l'Italie, on rêve de suivre Stendhal sur ses traces, tout ce qu'il a écrit sur l'Italie. Je rappelle que vous pouvez, en tapant le mot Italie sur le moteur de recherche du site de Canal Academy, vous pouvez évidemment retrouver toute cette série que nous menons avec Giovanni Dottoli à partir de son livre « Jardin d'Italie, voyageurs français en Italie » et c'est publié aux éditions Honoré Champion. Merci.
Merci à vous. Et merci à tous les amis, à tous les auditeurs de Canal Academy.